1939, cette année-là. Cette année-là, la métro Goldwyn-Mayer est sur deux immenses chantiers. Autant en emporte le vent et Le magicien d'Oz. Ce sont deux productions très compliquées qui entraînent un ballet étonnant de scénaristes et de metteurs en scène. Richard Thorpe, Georges Cukor, King Vidor et Victor Fleming sont appelés à passer d'un film à l'autre et à se remplacer mutuellement. Par exemple, beaucoup de scènes qui composent la première partie du Magicien d'Oz, dont celle où Judy Garland chante Over the Rainbow, sont filmées par King Vidor. Les coutures de cet assemblage de scènes seront rendues invisibles grâce notamment au talent du producteur Arthur Freed. Le Magicien d'Oz est également un film de studio, porté par la MGM. Autant en emporte le vent et Le Magicien d'Oz seront néanmoins signés Victor Fleming, créditant le cinéaste de l'entière responsabilité des deux œuvres. Georges Cukor, lui, en très probable clin d'œil, fera chanter Over the Rainbow par James Stewart l'année suivante dans The Philadelphia Story. Rien ne se perd au pays d'Oz. Les deux films ont d'identiques préoccupations, ce sont des histoires de tourbillons, de tempêtes, de traversées et de flammes. Et une question centrale, très présente dans Le Magicien d'Oz, celle de l'appartenance à une nation, à une terre. Qu'est-ce qu'être américain? Qu'est-ce qu'être de quelque part? En ce qui concerne Le Magicien d'Oz, ce quelque part ne vaut-il pas tous les endroits du monde? Une donnée me semble importante lorsqu'un film est évoqué. Trois niveaux historiques se croisent. Se complète la période où le film a été conçu, celle à laquelle nous le voyons et celle à laquelle il fait référence. À la sortie du film, les trois éléments coïncident. Car avant de devenir emblématique cinématographiquement, Le Magicien d'Oz fut symptomatique. Il est lié étroitement à l'époque de son tournage et aux impressions qu'il provoque chez le spectateur à sa sortie. Comme pour Autant en emporte le vent, l'histoire, avec un H majuscule, déteint sur la narration. Car il y a des années qui parlent toutes seules, des années où les préoccupations collectives vont rejoindre les petites histoires, les aventures individuelles. En 1939, toute neutralité mise à part, les Américains n'ignorent bien sûr pas grand-chose du risque et de l'avènement du conflit européen, du programme ignominieux du Führer nazi, ni des exactions déjà commises au nom de sa doctrine. Le Magicien d'Oz n'est pas un film prophétique, mais il contient plusieurs aspects allusifs, métaphoriques, quant à la situation conflictuelle qui s'annonce depuis plusieurs années. Et je pense que c'est volontaire. Évidemment, ces aspects sont en toile de fond et il n'est nullement besoin de les déceler, de les remarquer pour apprécier le film. D'abord, je passe vite sur cette tornade qui arrache et pulvérise tout ce qu'elle touche, une météorologie bien noire et dévastatrice. Mais la seule personne qui traverse cette tempête est Miss Gulch, qui va devenir la méchante sorcière de l'Ouest. Si tous les personnages sont faillibles, humains, touchants, fragiles, rien ne rend sympathique et vivant cette harpie qui, déjà devant les soi-disant dégâts causés par le chien Toto, parle, je cite, de l'exterminer. Son physique caricaturé ressemble à sa cruauté. En anglais, gulch signifie précipice, ravin, et c'est d'ailleurs au fond d'une montagne que la sorcière a son quartier général. Un refuge qui ressemble comme deux balais à un nid d'aigle, lieu d'où elle surveille, se cache et donne des ordres d'attaque à ses armées de singes volants, redoutables machines guerrières. Dernière chose troublante, un petit objet posé derrière elle a attiré mon attention. C'est une statuette, celle d'un aigle ou d'un vautour, voire un mélange des deux.